débat africain, Madeleine Mokamabano.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat consacré au retour de la Russie sur la scène africaine, un retour amorcé en 2001 et qui n'a cessé de prendre de l'ampleur au dire du président russe Dmitri Medvedev. Pour évoquer la nature et la portée de la coopération russo-africaine, nous sommes en compagnie de Philemon Adjibolo. Il est vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Yves Kouamaïso, directeur du think tank Afrologie, et François Ndengue, directeur d'un cabinet de consulting African Advisory Board. Monsieur, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Les relations entre l'Afrique et la Russie ne sont pas nouvelles. Pendant la guerre froide, on se souvient que la Russie avait 40 000 conseillers répartis sur 40 pays. On sait qu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, l'Afrique devait des milliards de dollars en dette commerciale, de marchandises civiles et militaires. Et au lendemain de la fin de la guerre froide, on a eu l'impression que la Russie avait complètement disparu du continent. Il faudra attendre l'an 2001, au cours de laquelle le président Poutine accueille les chefs d'État africains, ceux du Gabon, de l'Égypte, de l'Algérie, de la Guinée, du Nigeria. Et il y a eu aussi la tournée du ministre russe des Affaires étrangères en Afrique. Et là, on a commencé à parler du retour de la Russie sur le continent. Et puis, il y a eu d'autres épisodes. La dernière en date, c'est cette réunion entre parlementaires russes et africains qui s'est tenue à Moscou du 15 au 16 mai. Alors, François Ndengue, est-ce que là, ça signe un retour affirmé de la Russie sur le continent ?
Merci beaucoup, madame, et merci, et bonjour à tous vos auditeurs. Cette réunion avait pour but le retour, pour ainsi dire, de la Russie vers l'Afrique. Cela faisait suite à un voyage l'année précédente du président Medvedev en Afrique, et les parlementaires africains et russes ont cru bon d'organiser cette rencontre qui est une première, en fait, et qui a à la fois rassemblé les parlementaires et même des hommes d'affaires, puisque en marge de cette réunion, il y avait un forum d'affaires. Donc le but, pour résumer rapidement, c'est un peu le retour de la Russie en Afrique, un retour qui est double sur le plan politique et aussi sur le plan économique.
Oui, oui, en invitant à la fois les parlementaires et les hommes d'affaires. C'était une façon d'afficher les ambitions
de ces nouvelles relations. C'était une façon d'afficher les ambitions.
Oui, finalement, Adjibolo, vous étiez là-bas aussi. Vous faisiez partie des invités.
Oui, j'ai participé à la conférence qui s'est tenue du 15 au 16 à Moscou. Je tiens d'abord à saluer tous les auditeurs de RFI et à vous remercier de m'associer à ce débat. Donc, la conférence qui s'est tenue à Moscou était un prélude à l'arrivée de la Russie en Afrique. Et nous étions très contents d'être appelés à Moscou parce que le dossier de la Russie, le passé est propre. Parce que la Russie, comme à notre entendement, en tant qu'Africain, la Russie n'a jamais participé au commerce triangulaire. Vous le savez. Eh bien, la Russie également n'a pas colonisé l'Afrique, mais bien au contraire, pendant les années 59-60, les années d'indépendance, la Russie a essayé de soutenir les nationalistes africains. Bon, le thème était très important. Il fallait que les parlementaires aillent à Moscou et commencent à dire comment la Russie peut entrer en Afrique. Mais comme participant, nous, parlementaires africains, nous avons demandé à la Russie de ne pas s'arrêter à la conférence de Moscou. Il faudrait qu'on y associe les gouvernements et même nos chefs d'État. On a proposé qu'une telle rencontre se tienne à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, parce que vous savez que l'Afrique a été victime de la conférence de Berlin. On nous a divisé en petits morceaux. Et scientifiquement...
C'est pas une raison d'embrasser la Russie quand même. Hein.
Non, attendez, je vais m'expliquer. Vous savez, on ne peut pas embrasser le diable, sauf si on a peur qu'il vous enfonce un couteau au ventre. Donc, pour ça, il faut que la Russie vienne et il faut qu'on négocie avec tous les partenaires africains. Parce qu'il n'est pas question d'aller embrasser quelqu'un parce qu'on a faim. Bon, au Cameroun, on ne mange pas le mille-pattes parce qu'on a faim. Nous disons à la Russie, bienvenue, mais nous attendons voir des conditions de négociation.
Voilà.
Quel genre d'investissement, quel développement, quel, on va aller secteur par secteur.
Oui, alors on va voir quel type de partenariat l'Afrique peut nouer avec la Russie. Yves Kwe Amaizo, il y a déjà un volet politique. Quand vous entendez un président de l'Assemblée, un vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun vous dire la Russie n'a pas participé au commerce triangulaire, donc à l'esclavage, et la Russie n'a pas colonisé. Et au cours des années 50, 60, 70, il a aidé les mouvements de libération. Est-ce que ce n'est pas une utopie de prendre la Russie par le volet politique, alors que finalement, ce qui l'intéresse, on l'a vu, ce sont des positions stratégiques, économiques.
Sur le plan de l'histoire, ce qui a été dit est parfaitement vérifiable et vrai. Ce que je dirais, moi, dans un contexte beaucoup plus large, je crois qu'il faut pas, il ne faut plus s'arrêter aux images que nous avons de cette Russie-là. C'est une autre Russie. D'abord, sur le plan économique et même politique d'ailleurs, la Russie, pendant très longtemps, ne s'est occupée que d'elle-même, en fait, ou de sa région. Donc, si vous regardez le commerce, la part de la Russie dans le commerce mondial, c'est très faible. D'ailleurs, la Russie n'est pas membre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ce qui veut bien dire que l'ambition générale d'aller vers l'autre, et plus particulièrement vers l'Afrique, n'était pas là. Ceci vient de changer en 2001 et est en train de bouger. La deuxième chose, il faut quand même faire la différence entre Poutine et puis Medvedev. Medvedev est un innovateur. Beaucoup de gens ne le connaissent peut-être pas. Même pour la Russie, il parle d'entreprises privées essentiellement, moderniser l'industrie et l'agriculture. Il lui-même le dit encore une fois, investissement privé. Donc c'est dans ce cadre global. Et puis il est plus loin, il va aller chercher des leaders dans les technologies, aussi au niveau intellectuel. Donc il ne se limite pas uniquement à la Russie ou l'environnement de la Fédération de Russie, mais il va beaucoup plus loin, y compris donc l'Afrique. Donc c'est très important parce que ça permet de voir la stratégie de sélection que la Russie va avoir vis-à-vis de l'Afrique. Et le mot sélection est très important, parce que ça va être une sélection sur les bases de ceux qui peuvent payer, ça va être une sélection sur les bases de ceux qui sont sérieux, et ça va être une base aussi sur sa crédibilité personnelle. Je vois mal cette nouvelle Russie-là aller s'acoquiner. J'ai entendu parler de réunion chef d'État, c'est bien, mais la Russie ne va pas aller avec n'importe quel chef d'État dont la réputation sur le plan démocratique, etc., va gêner celle de la Russie. On sait que la Russie est en Éthiopie.
Non, mais la Russie elle-même a des problèmes en matière de démocratie.
Absolument, non, je sais bien. Mais
c'est pas elle qui va aller donner de leçons.
Non, elle ne cherche pas à donner de leçons, elle cherche à construire seulement une image. Donc j'essaie plutôt de mettre tout ce débat dans un cadre plus global, qui ne concerne pas que l'Afrique d'ailleurs. La même chose se passe pour l'Amérique latine ou la Chine ou d'autres régions. Et c'est dans ce cadre qu'il faut s'entendre. Parce qu'il ne faut pas avoir l'impression qu'elle vient spécialement pour l'Afrique. Ça, il faut se détromper de ça, ce n'est pas vrai.
François Ndengwe, mais justement, on se souvient qu'au moment de la tournée du président Poutine en Afrique du Sud, au Maroc, il affichait, il le disait, ce voyage, le premier voyage en Afrique, qui s'inscrivait dans le retour de la Russie sur la scène internationale. Et là, c'est un pas de plus.
C'est un pas de plus, et nous savons que après la chute de la dislocation de l'Union soviétique, il y a une grande période de tergiversation, de déséquilibre. La Russie a dû s'occuper, comme disait Yves tout à l'heure, d'elle-même et de sa région pour reconstruire. C'est une période qui a duré quelques années, et avec Poutine, ça a repris. Mais ici, c'est un pas de plus. Et effectivement, le président Medvedev veut moderniser son pays. Mais il y a ici, par rapport à ce qui nous concerne, nous, l'Afrique, des enjeux beaucoup plus importants. La Russie est un grand pays. La Russie est entourée de grands pays, qui sont parfois même concurrents et très concurrents, la Chine, les États-Unis. Et la Chine a jusqu'ici adopté une politique à l'égard de l'Afrique qui a surpris tout le monde et qui a eu des succès fulgurants. Et est-ce que la Russie ne peut pas rester en reste par rapport à ce qui se passe en Afrique? La Chine est arrivée en Afrique avec une politique qui était basée sur des principes très simples et pragmatiques. La Chine disait aux Africains, moi, regardez-moi, moi je vous ai soutenu pendant la lutte contre la colonisation, je vous ai soutenu pendant votre lutte de libération nationale. Deuxièmement, je suis moi aussi Chine, entre guillemets, une semi-colonie, j'ai été presque colonisé, donc nous faisons partie du même camp, et même plus, je suis un pays sous-développé comme vous. Et sur ces trois points, la Chine a mené une politique qui visait à dire « Je ne me mêle pas de votre politique intérieure, voici, je viens vous aider. Et la Chine a été encore très astucieuse et elle a agi sur des infrastructures, des choses que l'on voit. Alors, le problème qui se pose à la Russie, qui arrive maintenant, un peu en retard, c'est est-ce que la Russie est capable de mettre au point une politique d'approche en égard de l'Afrique qui puisse satisfaire le développement économique de l'Afrique en dehors de ce que la Chine a fait ou de ce que les Africains savent, des résultats plutôt moyens ou médiocres de leur coopération centenaire avec l'Ouest. Qu'est-ce que la Russie peut apporter de nouveau? Et là, lors de la conférence, j'ai fait deux exposés. L'un qui portait sur les modalités pour un transfert efficace de technologie.
Oui, on va y arriver, mais je veux voir ce que les politiques africains attendent eux-mêmes. Philemon Adjibolo, on a vu qu'au moment du voyage l'année dernière de Medvedev, c'était justement dans les pays qu'on juge stratégiques, l'Égypte sur le plan politique, le Nigeria, la Namibie, l'Angola pour les matières premières. Est-ce que vous avez l'impression que cette Russie ne va pas être sélective, comme on le disait tout à l'heure Yves Kouamaïso, alors que tous les pays africains, vous étiez une trentaine de pays africains présents à Moscou?
Oui, nous étions plus d'une trentaine, mais nous disons que la Russie traitera avec les pays africains selon les règles que tout le monde réclame. La Russie ne vient pas nous enseigner une manière de faire. Je crois que si vous voyez l'ensemble de l'Afrique, nous avons les mêmes richesses. Chaque État a du manganèse, il y a la bauxite qu'on trouve au Cameroun, qu'on trouve en Guinée, qu'on trouve un peu partout. Donc, quand la Russie vient, c'est vrai, elle va traiter avec ceux-là qui sont sérieux et qui peuvent être des bons partenaires. Mais alors, ce n'est pas parce qu'il a commencé par le Nigeria et autres...
Ça commence par des pays solvables quand même, comme par hasard.
Oui, mais bien sûr, des pays solvables, mais tous les pays aspirent à devenir solvables. Donc, on peut toujours imiter de bonnes habitudes. Donc, nous sommes sûrs que tôt ou tard, comme la Russie, comme je l'ai dit tantôt, la Russie connaît mal l'Afrique. Là, vous serez d'accord avec moi. La Russie connaît mal l'Afrique. Cette fois-ci, comme elle vient...
Bon, c'est pas tout à fait vrai. J'en vois qui secoue la tête. Oui, parce que la Russie, quand même, a été présente en Afrique pendant très longtemps.
Voilà. Donc, elle va entrer avec ses méthodes, avec sa façon de faire, avec sa technique. Et nous disons, nous Africains aujourd'hui, il n'est plus question, vous me suivez très bien, il n'est pas question de ramasser nos matières premières et d'aller les transformer dans d'autres cieux. Parce que, je prends un exemple, vous me suivez bien, j'ai suivi les informations, la Russie a acheté un bateau français, un bateau de guerre. Mais Poutine a exigé le transfert des technologies. Pourquoi ceux-là qui viennent prendre nos matières premières ne peuvent pas mettre en place des petites unités de transformation? Je prends l'exemple du bois. On continue à exporter le bois en grume. Or, nous avons demandé au niveau de l'Assemblée qu'on exporte des produits finis. Quand on voit un pays comme la Corée du Sud, qui a été au même niveau que mon pays, et qui aujourd'hui construit des véhicules et tout, c'est parce qu'il y a eu transfert de technologies. Donc, nous, Africains, nous disons que la Russie vienne, nous allons travailler avec la Russie, on va étudier les conditions de l'arrivée de la Russie, quel développement, quel objectif, mais nous disons, nous sommes fermes. Il n'est plus question qu'on vienne ramasser nos matières premières pour aller les transformer ailleurs et nous les revendre.
Est-ce que ça veut dire que vous allez exiger plus de la Russie que de la Chine ou de l'Inde, par exemple? Ou de la France, ou de tous les pays européens qui coopèrent avec l'Afrique.
Mais tous les pays européens ont la capacité d'installer des unités de transformation.
Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas posé comme condition le transfert de technologie quand un pays européen obtient le marché du port de tel ou tel pays, par exemple.
Ça a été notre vraie bêtise, puisque on a cédé. Jusqu'ici, la bauxite est transportée ailleurs et transformé là-bas. Le cacao, par exemple, est transporté ailleurs et on nous revend un carreau de cacao au triple du prix de l'achat du cacao. Donc on a été assez bête, il faut le reconnaître. Mais quand on s'est trompé une fois, pour la deuxième fois, ça devient la faute. Donc, pour le moment, nous avons réfléchi l'Africain s'est introspecté, a vu pourquoi il ne sort pas de la misère, et alors que nous sommes assis sur la richesse, comme ce crapaud qui est assis sur un panier de manioc et qui meurt de faim.
Bon, merci. Il veut quoi, Maïso?
Bon, écoutez, je partage ce que dit l'honorable, mais j'aimerais quand même apporter des nuances. La première nuance est la suivante. C'est très bien d'attendre quelque chose des Russes, et vous souhaitez qu'ils viennent, ils viendront. Je pense qu'il vaut mieux regarder du côté Afrique. Il a parlé d'erreurs assez importantes de l'Afrique, et plus particulièrement des dirigeants africains, sur les deux, trois dernières décennies, sur le refus ou l'oubli de transformer les matières locales, c'est-à-dire les capacités productives. Je rappelle à ce propos d'ailleurs que cette même Union africaine, j'ai moi-même proposé un document là-bas en 2004, approuvé par tous les chefs d'État africains, y compris le Maroc par le NEPAD, et que cette même Union africaine ne le met pas en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème entre cette volonté affichée de travailler avec des partenaires, et puis la volonté africaine en tant que telle de mettre des structures en place, des institutions en place, pour favoriser l'arrivée de ces gens-là. Deuxième élément qui est lié à ça, c'est ce que j'appelle l'environnement des affaires. Si vous comparez tout simplement les deux ou trois petites conditions de base, combien de temps il faut pour créer une entreprise, en partenariat ou pas, avec l'extérieur, entre la Russie et le Cameroun, pour ne prendre que ces deux exemples-là, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, cet investisseur russe qui va venir au Cameroun, si les conditions ne sont pas intéressantes au Cameroun pour lui, parce qu'il perd du temps en bureaucratie, en corruption, etc., il va aller ailleurs. Qu'on le veuille ou non, qu'il y ait une décision au niveau de l'Union africaine ou pas.
D'autant plus que lui ne court pas après le pétrole comme les autres pays.
Exactement. Alors il faut faire très attention à cela, parce que ce n'est pas une décision de l'Union africaine qui changera quoi que ce soit, puisque l'Union africaine elle-même est en contradiction. Elle ne met pas en œuvre ce qu'elle décide elle-même, avec l'impossibilité de mettre en œuvre la capacité productive, y compris au niveau du NEPAD, au niveau de l'Union africaine. Il y a un troisième point plus important pour moi, c'est le secteur privé. C'est que ce secteur privé russe, il existe. Je peux même vous donner un exemple concret. Au Cameroun, les secteurs privés, des individus russes sont venus dans plusieurs pays, dont le Cameroun, ont choisi d'ailleurs le sable de très bonne qualité au niveau de Kribi, en tout cas du Cameroun, et on fabrique actuellement, par exemple, les verres qu'on met sur les lunettes. Et vous soyez étonné que la bonne partie des verres que vous utilisez dans la sous-région là-bas, voire même en Afrique de l'Ouest maintenant, vient et produit au Cameroun grâce à un partenariat entre la Russie et un de vos investisseurs.
Oui, vous pouvez parler aussi du secteur bancaire. Il y a une banque qui est maintenant dans beaucoup de régions d'Afrique où il y a des actionnaires russes.
Bien sûr. Non, ce que je veux simplement dire rapidement, c'est qu'en fait, il faut bien faire attention entre les États ou l'État et la relation affichée des États, qui resterait souvent très bureaucratique et au niveau des objectifs et des symboles, et des partenaires privés qui, eux, ont des conditions très précises à honorer, et qui est la rentabilité d'abord. Et je rajouterais quand même quelque chose qui est intéressant du côté des Russes, c'est que quand on constate comment les salaires sont distribués au niveau des chefs d'entreprise, voire même des salariés, il y a quand même un effort qui est fait pour donner des salaires décents à ceux qui travaillent avec des entreprises en partenariat avec la Russie. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt des PME. Alors sur le transfert de technologie, il faut le dire, la Russie accepte de faire ce transfert de technologie. Quand je vous parle de ces fabrications de verre, la technologie a été transférée au niveau du Cameroun et est réexportée sur la sous-région. Donc les conditions qui ont manqué avec la coopération occidentale sont en train de disparaître. Donc la question que vous avez posée de savoir, est-ce que la Russie va trouver une autre forme d'introduction en Afrique, je pense que oui, ça va se faire beaucoup plus par ce secteur privé, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agile, mais attention, si les conditions environnementales des affaires légales, par exemple, le tribunal ne marche pas bien, ne sont pas propices, vous risquez simplement de voir ces gens venir, regarder, et puis partir dans le pays voisin, et plus généralement le pays où les conditions sont plus favorables. Ce n'est pas du tout un problème politique, encore moins de conception dogmatique de communiste ou de néolibéral.
On verra quand même qu'il reste quelques liens avec les anciens pays communistes africains, mais nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission. Dan Marco, une pause pour le journal.
Africain, Madeleine Mukamabano.
Suite de notre débat consacré au retour de la Russie sur la scène africaine, nous sommes toujours en compagnie de Philemon Adjibolo, vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Yves Kouamaïzo, directeur de think tank Afrologie, et François Ndengwe, directeur d'un cabinet de consulting African Advisory Board. À la fin de la première partie de cette émission, Yves Kouamaïzo a donné des exemples concrets de la coopération avec la Russie, mais par le biais du secteur privé. Alors, quand on voit l'arrivée de ces pays émergents sur la scène africaine, François Ndengwe, on peut constater qu'il y a presque trois façons de fonctionner. Il y a la façon chinoise, où on ne sait pas si on a affaire à une entreprise privée ou à un État, parce qu'à chaque signature de contrat, pratiquement, on a toujours l'ambassadeur de la Chine dans le pays concerné qui est là. Il y a l'Inde, où c'est clair, on a la coopération d'État à État ou la coopération d'entreprise à entreprise. Et il y a le Brésil qui est un autre cas à part. La Russie, à qui a-t-on affaire aujourd'hui quand on parle de la coopération avec la Russie?
Pour l'instant, la coopération avec la Russie, ce serait surtout, à ma connaissance, la coopération dans le secteur privé russe. Encore que vous avez mentionné le cas de la Chine, où effectivement, derrière beaucoup de partenaires chinois, il y a l'État, qui peut être l'État au niveau national ou au niveau local. Mais ici, la Russie doit trouver des méthodes innovantes pour approcher l'Afrique. La Russie ne peut plus approcher l'Afrique comme la Chine l'a fait, ou comme l'Inde ou d'autres pays. Alors, quels sont les atouts de la Chine, de la Russie? Et la Russie a beaucoup d'atouts par rapport à sa coopération économique ou politique avec l'Afrique. Bon, on a mentionné tout à l'heure en début le fait que le passé de la Russie n'avait pas de colonisation ni d'esclavagisme, mais on peut aussi mentionner un atout important ici, qui relève de l'anecdote, mais même pas, mais qui est important sur le plan historique, pour quelqu'un qui vient du Cameroun, que Pushkin est le petit-fils d'un Camerounais. Pour ainsi dire.
On ne va pas regarder ça pour signer un contrat.
Non, mais c'est quand même important. Et si on sait le rôle que tient Pushkin dans le subconscient et dans la vie littéraire russe, c'est important. Mais ceci, c'est pour ça que je disais que c'était un objectif.
Non, bon. On nous écoute quand même. Tu ne vas pas faire croire aux chefs d'entreprise africains que quand ils vont se retrouver en face d'un russe pour signer un contrat, ils vont tous les deux penser à Pushkin.
Vous savez, dans les affaires économiques, le contexte culturel et économique et social et ce qu'on appelle le goodwill, qui fait que les peuples peuvent se rapprocher, Pushkin peut être un élément qui permet le rapprochement de la Russie et de l'Afrique. Alors, quelque chose d'important ici, et c'est pour cela que j'étais un petit peu déçu, pour ainsi dire, de la part des Africains. Les Russes sont très bien organisés, de la part des Africains à Moscou. La Russie est un grand pays. Les Africains ne peuvent pas venir diviser. Et c'est ce qui fait que les Africains sont faits par rapport à la Chine. Il ne faut pas que cela se répète par rapport à la Russie. Les Africains doivent, à mon avis, devaient venir organiser déjà à cette conférence. Et après cela, aurait pu même se réorganiser ensemble pour mettre au point une stratégie commune vis-à-vis de la Russie. Et s'il n'y a pas cette stratégie commune, nous allons voir ce que nous voyons à peu près avec la Chine actuellement, où un grand pays peut avoir des avantages d'un pays à un autre sans qu'il y ait de coordination du côté africain. Alors, puisque vous avez parlé de la technologie, là aussi la Russie a beaucoup à apporter aux Africains. Les Russes que j'ai rencontrés, aussi bien de l'académie de Russes que du secteur industriel, sont prêts à faire des efforts vis-à-vis de l'Afrique. Mais bien sûr, tout ceci, c'est du commerce. Les Russes ne viennent pas en Afrique pour les beaux yeux des Africains. Mais au moins, les Russes ne peuvent pas avoir de prétention sur les matières premières ou sur les terres, comme d'autres territoires, comme d'autres pays ont. La Russie est un pays immense, c'est pas en Afrique.
Très peu peuplé,
exactement.
Avec une population vieillissante.
Et c'est la complémentarité que l'Afrique peut apporter à la Russie et qui peut faire que sur cette complémentarité on peut bâtir. L'Afrique est un continent qui aura une population en pleine croissance. Si on sait que la population de la Russie représente environ en 2050 environ 7% de la population africaine, ça veut dire que la population africaine sera un immense marché, y compris pour les produits industriels russes. Donc, pour résumer, on peut dire que la coopération technologique du côté russe, les Russes sont prêts. Est-ce que les Africains sont organisés de façon collective pour faire face à cela? Et ensuite, sur le plan du marché, l'Afrique est un marché immense. Aux Africains de savoir défendre et organiser leur marché pour...
Et d'avoir un pouvoir d'achat quand même. Il ne suffit pas d'avoir une population. Il faut que cette population ait un pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat, justement, c'était l'objet de mon dernier exposé sur les financements et sur les modes de financement innovants dont on pourra parler si nous avons le temps.
Oui, on va en parler. Alors, finalement, Adjibolo, est-ce que cette idée d'avoir une position commune face à un pays, c'est-à-dire un continent à qui on demande d'avoir une position commune face à un pays, pays. Est-ce que ce n'est pas une utopie finalement? Parce que les besoins du Cameroun ne sont pas les besoins de l'Angola ou de la Libye, qui vient de signer d'ailleurs un contrat avec la Russie.
Je vous dirais que c'est l'individualisme qui a retardé l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains ont intérêt à marcher ensemble et à regarder la même direction. Parce que nous avons les mêmes problèmes, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Rwanda, au Burundi. Si vous faites le tour de ces pays, vous verrez qu'il y a une maladie commune, la misère. Alors, j'ai proposé à Moscou que la rencontre de Moscou qui a eu lieu le 15 et 16 ne s'arrête pas à Moscou. Il faudrait qu'on se rencontre de nouveau au siège de l'Union africaine pour coordonner nos actions et nos points de vue.
Les Russes ont même reconnu, je pense que les Russes ont reconnu qu'ils n'avaient pas vraiment de relation avec l'Union africaine.
Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de relation avec l'Union africaine, mais on peut créer ces relations. Parce que, comme le dit mon frère tout à l'heure que j'ai suivi, l'Afrique gagnerait en allant ensemble. Parce que, si vous constatez, je vis au Cameroun. Il y a le Camerounais moyen de capital économique et politique et le Camerounais du village. Mais la misère est rampante. Donc, les Camerounais, et vous trouverez des Centrafricains misérables. Vous arriverez, vous trouverez des Rwandais misérables. Donc, bref, il faut que les chefs, les dirigeants africains se retrouvent pour un partenaire comme la Russie, qui vient déjà trouver la Chine sur place, et les États-Unis et autres. Il faudrait qu'on essaye de trouver une stratégie commune pour faire face, afin que vous avez parlé du revenu du paysan. Mais pourquoi ces revenus sont tombés à zéro? Parce que les prix des produits ont baissé d'une manière drastique. On a produit, par exemple, le cacao, qu'on ne consomme pas, et on nous a imposé un prix. Alors, ça a baissé les revenus des populations.
Oui, il faut qu'on revienne à la coopération avec la Russie, oui.
Oui, et je vous disais donc qu'avec la Russie, c'est une occasion pour qu'on réfléchisse et qu'on parle le même langage avec la Russie. Oui. Et je crois que la Russie ne va pas utiliser des méthodes de division pour tirer son épingle du jeu. Puisque s'il trouve que les Africains sont unis, eh bien, il sera obligé d'adopter une attitude qui puisse permettre aux Africains dans l'ensemble de tenir le même langage. Donc, la Russie est bienvenue. Et l'arrivée de la Russie en Afrique nous permet de nous introspecter et de savoir pourquoi, depuis 50 ans, on est en train de fêter les cinquantenaires, pourquoi depuis les 50 ans, nous ne faisons que nous enfoncer au lieu de sortir de l'eau. Donc moi, je me dis, c'est l'occasion ou jamais de nous asseoir, de nous regarder en face et de trouver des stratégies communes. Donc, la Russie est bienvenue. Parce que nous allons profiter de l'arrivée de la Russie pour voir les erreurs commises avec la Chine.
Oui,
je prends un exemple.
Oui, mais après, vous les ferez avec la Corée du Sud, ainsi de suite. Yves Kouamaïzo.
Écoutez, je partage ce que dit le vice-président de l'Assemblée. Mais on n'a pas besoin d'attendre la Russie pour connaître nos erreurs en Afrique. Il y en a une qui est toute simple. Vous parlez de misère, je suis entièrement d'accord, mais oui. La misère, c'est
mais
pas...
Mais recentre, Yves Kouamaïzo. Oui. On parle de la coopération,
absolument.
On parle d'avoir une position commune. Mais comment un continent peut avoir une position commune face à des entreprises, puisque pour le moment, on ne parle que de la coopération, du partenariat avec le secteur privé.
On peut absolument avoir des positions communes sur l'environnement des affaires.
Voilà.
Si on se met d'accord sur quels sont... Le temps qu'il faut mettre, par exemple, pour créer une entreprise, on peut avoir des positions communes dans une marge respectable. On peut avoir des positions communes sur la fiscalité. C'est déjà en train de se faire au niveau sous-régional. On peut avoir une position commune sur la corruption, parce que le niveau de corruption dans l'administration, elle est ce qu'elle est. On peut avoir une position commune sur l'accès au financement, par exemple, etc. On peut avoir une position commune sur l'utilisation, dans tous les contrats, des experts africains de nos universités. Voici quelques exemples que je cite rapidement. On peut aussi dire sur les coûts d'investissement que quand on a fait un investissement russe-Afrique en Afrique, tant de pourcents doit pouvoir être réinvesti dans le pays, dans un domaine de la capacité productive. Mais attendez, tout ça c'est du côté russe. Mais du côté africain, il faut faire très attention. Tout à l'heure, il a été dit que dans la réunion qui a eu lieu en Russie, les Africains ne sont pas venus de manière organisée, structurée, avec une position commune, avec une proposition tout simplement sur la table. C'est de là qu'il s'agit. Quand l'honorable demande qu'il y ait une réunion de l'Union africaine, entièrement d'accord, je préfère moi qu'il y ait une réunion d'abord entre les Africains eux-mêmes, pour se mettre d'accord sur ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire ensemble avec la Russie, et qu'ils mettent ça sur la table. Et quand ils sont d'accord avec eux et qu'ils le soumettent à la Russie ou d'autres d'ailleurs, ça peut se devenir réalité.
Mais c'est moins ce qu'ils peuvent faire avec la Russie que les modes de partenariat.
Mais les modes de partenariat n'ont jamais changé, au fond. Si l'Afrique écoutait ses experts, on pourrait avancer trois fois plus vite. L'Afrique n'écoute pas ses experts. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. C'est pour ça que quand vous dites Afrique, moi ça me dérange. Il y a une différence fondamentale entre ceux qui dirigent, les élites dirigeantes, de manière générale, sans aller dans le détail, et puis des expertises africaines qui sont en Afrique comme qui sont à l'extérieur de l'Afrique dans la diaspora, qui ne sont absolument pas écoutées dans tous les secteurs confondus. Et je vous assure que quand on leur demande leur avis, vous avez des avis qui sont des avis très spécialisés et qui correspondent aux besoins des populations. Deux, je revenais sur cette histoire de village et de misère. C'est très important de comprendre comment se crée une richesse. Ce n'est pas par hasard que pendant des années, le café et le cacao n'ont pas été transformés. C'est parce qu'il y a eu des erreurs fondamentales de compréhension de la création de la richesse. On n'est pas là pour réduire la pauvreté, on est là pour créer de la richesse. On crée de la richesse comment? En faisant la transformation. Pourquoi l'Afrique n'a pas une position commune, par exemple, pour demander la mécanisation dans les champs, tout simplement? Si vous mettez 2, 3, 4 éléments de mécanisation dans nos champs, quel que soit le secteur, du produit vivrier jusqu'au produit d'exportation, je vous garantis que vous allez avoir de la productivité. Maintenant, il va falloir qu'on mette un système en place pour qu'une redistribution se fasse, non pas au profit du président du coin, ou du maire du coin, ou du préfet du coin, ou tout simplement du riche du coin, mais que ça profite à l'ensemble de la population africaine. Voilà, le problème est d'abord africain, il n'est pas russe. Qu'on soit bien d'accord sur le fond.
Oui, François Ndengue.
Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il est difficile pour un continent de s'organiser pour affronter un pays étranger, mais je vous signalerai que la coopération entre la Russie et l'Union européenne est quelque chose d'institué. Les Européens
oui, mais sont... l'Union européenne, c'est
oui,
pas un pays.
Mais exactement, c'est pour ça que l'Afrique aussi doit s'organiser. Il y a un cadre institutionnel de coopération entre l'Union européenne et la Russie. Deuxièmement, et pour
montrer... Les enjeux ne sont pas les mêmes quand même, continuons.
Deuxièmement, le communiqué final de la rencontre de Moscou entre la Russie et l'Afrique mentionnait, et ça c'est remarquable de la part des Russes, déjà que la volonté de la Douma et des institutions russes de travailler avec le Parlement panafricain. Il y a peu d'instances où on mentionne même le Parlement panafricain, alors que les Russes, et les Russes même qui sont demandeurs de travailler davantage avec le Parlement panafricain. C'est quelque chose de notable. Troisièmement, le 10 et le 11 décembre prochain, M. Andrei Klimov, qui était un des organisateurs, qui est un responsable de la Commission des affaires étrangères de la Douma, organisera à Paris une rencontre en quelque sorte trilatérale entre l'Union européenne, la Russie et l'Afrique. Donc ça veut dire que même du côté russe, il y a la volonté de travailler avec les Africains de façon organisée. Il appartient encore une fois aux Africains de travailler de façon organisée. Et c'est seulement de façon organisée qu'ils pourront tirer tous les avantages du potentiel énorme qu'ils ont. Et l'Afrique, encore une fois, c'est un continent extrêmement riche. Oui. Et si on peut voir uniquement, pour voir les marges de progression qui peuvent exister entre la Russie et l'Afrique, si on se rend compte que les échanges entre la Russie et l'Afrique ne représentent que 2% des échanges du commerce extérieur russe dans l'Afrique, ne représente que 2% du commerce extérieur.
Et encore, c'est parce qu'on compte les pays comme l'Égypte, le Nigeria.
Exactement, et c'est très concentré.
C'est très concentré sur 3 ou 4 pays.
À la fois, c'est désolant comme chiffre, mais en même temps, ça montre de la marge de progression qui existe. Et cette marge de progression peut être très très rapidement rattrapée ou comblée. Et ensuite, maintenant, même dans ce commerce international, la Russie est prête au niveau des transferts de technologies. On a parlé du cas de l'énergie. Dans le forum des affaires qui était en marge de cette rencontre, il y a des exposants, des industriels russes, que ce soit au niveau des tracteurs agricoles, au niveau des satellites, au niveau des technologies avancées.
Il y avait un projet de coopération entre la Russie et l'Afrique du Sud pour, je crois, la mise sur pied d'une centrale nucléaire civile pour produire l'électricité. Ça a été suspendu.
Oui, et là encore, bon, les conditions... Vous savez que le nucléaire est régi par des conditions assez strictes au niveau international, mais ici encore, nous sommes en face d'un pays, la Russie, qui est vraiment à la pointe. N'oublions pas que la Russie est le premier pays qui, en 1954, a pu maîtriser l'atome pour transformer l'atome en énergie électrique. Donc, nous sommes là, que ce soit dans le secteur électrique, ou dans le secteur des industries, ou même le secteur de l'agriculture, ou le secteur du tourisme,
des chemins de fer, exactement.
La Russie est très très prête. Ils appartiennent encore une fois aux Africains à s'organiser. Mais dernier point ici, il faudrait que, quand pour s'organiser, il faut que les gens voyagent. Quelles sont les conditions de voyage, d'échange de personnes dans les deux sens?
Ah oui, ça c'est un autre problème. Monsieur Adibolo, tout à l'heure on parlait d'améliorer l'environnement des affaires en Afrique, de respecter les standards, mais quand on regarde ce qui se passe du côté de la Russie, est-ce que c'est facile? Parce qu'on sait que dans le secteur privé russe, il y a tellement de problèmes de corruption. Vous avez lu tout ce que nous lisons pratiquement tous les mois sur les problèmes de corruption en Russie. Est-ce que ce n'est pas un handicap?
Oh oui, madame, vous savez, on dit que là où il y a la volonté, il y a un chemin. Je crois que s'il y a une volonté politique de combattre la corruption, elle sera vraiment assainie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de corruption. Nous avons des codes d'investissement. Que l'Assemblée a voté, tout ce que nous voulons maintenant, c'est le comportement des hommes chargés d'appliquer les textes. On peut avoir de très bons textes, et s'il manque des hommes capables de les appliquer, ces textes ne valent rien. Donc le problème, c'est que ça va se résoudre. Vous savez, on a tellement pris du retard, on s'est amusé avec l'avenir de nos enfants, au point qu'aujourd'hui, madame, je vous le dis, la population africaine est constituée aujourd'hui de plus de 40% des jeunes. Et ces jeunes ont leur manière de voir. Parce que quelqu'un a dit, quand les experts proposent, les décideurs n'appliquent pas. Moi, je crois que les décideurs africains, et je le dis à RFI, il ne faut pas que les décideurs africains soient en porte-à-faux avec la jeunesse africaine, qui a des ambitions et qui trouve que le décollage de l'Afrique est irréversible.
Honorable, vous faites partie de ces décideurs. On arrive à la fin de cette émission. Je voulais aussi passer la parole à Yves Kouamaïso. Il y a cette organisation non gouvernementale Alliance Africaine, oui, qui va avoir une antenne à Addis Abeba. Comment voir ça? Est-ce que c'est une sorte de tête avancée du pouvoir russe? Parce qu'on ne comprend pas le rôle que joue cette ONG.
Non, disons que vous avez demandé tout à l'heure de savoir comment les Russes vont s'y prendre. Je crois qu'ils ont une façon très originale, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, c'est une approche que les Japonais ont eue dans le temps. Il s'agit en fait de créer une ONG, une organisation non gouvernementale, qui finalement se fait financer par l'ensemble des entreprises privées russes, et cette ONG vient en fait s'installer en Afrique, vous l'avez dit déjà à 10, mais ça va être dans plusieurs pays avec le temps, et à partir de là, voir s'ils vont faire des activités plutôt dans le social ou carrément dans les affaires. Ça leur permet de tisser un lien direct avec les locaux, et s'assurer de ce que je vous ai dit tout au début, de la sélectivité des projets. Si le projet n'a pas un retour direct sur investissement de profitabilité, vous êtes sûr que c'est eux qui vont les éliminer. S'il n'y a pas une solvabilité avérée du projet, voire avec les partenaires, surtout s'il y a beaucoup trop de corruption, ils vont aussi le rejeter. Et si ça doit les engager et ternir leur image sur le moyen ou le futur, je pense aussi qu'ils vont le mettre de côté. Il faudrait que du côté africain, nous ayons maintenant les institutions, comme ça a été dit tout à l'heure, qui puissent répondre à cela. Parce que nos chambres de commerce, nos chambres d'agriculture, nos chambres de métiers, si on pouvait trouver un moyen de les faire travailler pour qu'on ait un seul point de passage pour les investisseurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, je crois qu'on aurait fait un grand pas. Et si on ne l'a pas, ben écoutez, ça va être comme d'habitude, c'est-à-dire que les Africains sont toujours en retard d'une petite guerre, et sur cette guerre économique, nous sommes plutôt en train de perdre, comme a dit le vice-président de l'Assemblée tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne pensons jamais à nos générations futures, à nos jeunes de demain, et que je crois qu'aujourd'hui, si les décideurs continuent à ne plus écouter les experts quand on leur fait les recommandations, bon, là, une partie est partie à l'international, à la diaspora, l'autre partie va trouver des voies directes avec le secteur privé, dans ce cas particulier, russe.
Merci à tous les trois. Merci à l'équipe du débat africain, Tony Fegali et Laurence Colonne. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain.